Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode de la série Feuille de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 10 avril 2024. Adoption de la directive européenne relative à la surveillance et à la résilience des sols par l'Union européenne. Pourquoi créer cette directive européenne? En quoi consiste-t-elle? Quel impact peut avoir l'Union européenne sur l'aménagement du territoire et la réelle prise en compte des sols? Comment peut-elle continuer d'évoluer pour que la dite résilience des sols soit réellement atteinte? Plus de 70% des sols européens sont dégradés. Cette dégradation des sols a déjà coûté des milliards d'euros, d'après l'Union européenne, plus de 50 milliards par an, selon les estimations. En raison, principalement, de la perte des services essentiels que les sols fournissent. Vous savez, la fourniture de denrées alimentaires ou d'aliments pour les animaux, les fibres, le bois, la régulation du climat, de l'eau ou encore des parasites. Cette dégradation est principalement due à une gestion non durable des terres, à l'imperméabilisation, à la contamination et à la surexploitation des sols, combinée désormais aux effets du dérèglement climatique. Elle a aussi pour effet d'exercer une pression supplémentaire sur les sols encore sains. Cette situation a un coût qui est non négligeable pour les agriculteurs et nuit à la capacité de produire des denrées alimentaires saines et nutritives. Il est urgent d'inverser la tendance afin de prévenir les catastrophes naturelles et les sécheresses, et de mieux y faire face, d'atteindre un peu les objectifs fixés par l'Union européenne en matière de climat et de biodiversité, ou encore garantir la sécurité et la sûreté alimentaire en protégeant la santé des citoyens. Actuellement, les sols ne bénéficient pas du même niveau de protection juridique dans l'Union européenne que l'air et l'eau. Le Parlement européen, les autres institutions de l'Union, les parties prenantes, les citoyens, ont donc demandé à la Commission d'établir un cadre juridique de l'Union pour la protection et l'utilisation durable des sols. En réponse, dans sa stratégie de l'Union européenne pour la protection des sols à l'horizon 2030, il était annoncé une nouvelle proposition en 2023 pour vraiment prendre en considération le bon état de santé de tous les écosystèmes sols d'ici à 2050. En séance plénière, les eurodéputés ont donc adopté, ce 10 avril 2024, date à graver dans le marbre apparemment, la proposition de directive européenne relative à la surveillance et à la résilience des sols, qui vise à atteindre des sols en bonne santé dans toute l'Union européenne en 2050. On y parle beaucoup de la surveillance obligatoire des sols, même si les contaminations visées focalisent surtout sur les métaux lourds, et en oublie certaines comme les pollutions diffuses, l'identification des contaminations et des risques encourus, est un objectif quand même très clair de la directive. On parle de mettre en place une surveillance des sols, mais pas spécifiquement de protéger les sols. En France, cette surveillance est déjà réalisée, mais plusieurs pays européens n'ont rien en la matière. Cette surveillance ne concerne pas que les sites contaminés, mais tous les sols. La directive cadre cette surveillance en proposant toute une batterie d'indicateurs, dont des indicateurs obligatoires pour tous les États membres. Ces indicateurs, mesurés tous les 5 ans, visent à surveiller certaines menaces qui pèsent sur les sols telles que l'érosion, la compaction, la perte en matière organique, la salinisation, l'acidification, la réduction de la capacité de rétention en eau des sols. Mais aussi l'artificialisation des sols ou leur imperméabilisation. Ces indicateurs sont accompagnés de valeurs critiques à ne pas dépasser selon les types de sols, leur usage, le climat. Ah oui, parce que forcément, cette surveillance ne peut pas être identique dans toutes les régions européennes qui sont très différentes entre elles. Ce sont aux États membres, donc, de définir la gestion durable des sols. La souveraineté de leur sol est préservée, les sols seront surveillés, à défaut d'être spécifiquement protégés. En effet, la proposition énonce des principes de gestion durable, mais ne propose ni ne bannit aucune pratique. Ce seront aux États de le faire dans les 5 ans après le vote de la directive. De plus, il n'y a pas d'objectif intermédiaire entre aujourd'hui, où 70% des sols sont dégradés, et l'objectif de 2050, où on souhaite 100% de sols sains. Certains députés de l'Union européenne, comme Marie Toussaint, les Verts, tentent de relancer le débat pour prendre des mesures concrètes.
En Guadeloupe et en Martinique, les sols ont été pollués pendant 2 décennies par le pesticide chlordécone, classé cancérogène qui contamine aujourd'hui 90% de la population. Alors que les populations ultramarines dénoncent l'écocide, nous voulons souligner l'urgence de dépolluer ces sols et vous proposons l'amendement suivant. Les États membres devraient prioriser la réduction des risques pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement liés aux contaminations particulièrement nocives, telles que les fortes concentrations de chlordécone, d'arsenic ou de nickel dans toutes les régions, telles que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane française, et devraient, par conséquent, mettre en place des mesures concrètes et ambitieuses pour arrêter la dégradation des sols, étudier leur qualité et régénérer la santé des sols de ces régions.
Revenons sur quelques dates clés menant à cette directive des sols, car ce qui paraît comme une avancée vient d'étagères en réalité bien poussiéreuses. Pour cela, il faut remonter en 1972, avec l'adoption par le Conseil de l'Europe d'une charte européenne des sols. Elle joue un rôle pionnier dans la politique de conservation des sols à l'échelle européenne. Cette charte, intergouvernementale qui comprend un préambule et 12 principes, n'a cependant pas de valeur normative. Elle affirme que le sol est un des biens les plus précieux de l'humanité et une ressource limitée qui se détruit facilement. Le sol y est aussi qualifié de
milieu vivant et dynamique qui permet l'existence de la vie végétale et animale.
Un de ces paragraphes traite ainsi de la nécessité de protéger les sols de la menace que constitue la pollution.
La gravité des problèmes liés aux anciens ou actuels sites contaminés, dépôts de déchets, anciennes mines, anciennes usines, sites d'anciens accidents, etc., impose une politique adéquate de protection des sols au niveau de la prévention des dégradations et de la restauration ou réhabilitation des sols.
La charte, révisée en 2003, éclaire alors sur les préoccupations en matière d'état des lieux des sols et les différents sites de l'eau et de l'air. Enfin, elle adresse des recommandations aux États membres pour faire évoluer leur droit national afin de garantir de manière appropriée la protection des sols. Depuis cette fameuse charte, il y a eu de nombreuses occasions de creuser le sujet. En 2001, avec le programme Notre Avenir, Notre Choix, où la protection du sol faisait partie d'une des 7 thématiques. Dépourvue de portée juridique, cette stratégie a pour ambition de placer la protection des sols au même rang que la protection de l'eau et de l'air. Sur les 4 piliers fondamentaux de cette stratégie, seule la directive cadre sur les sols n'est pas mise en place, faute de majorité à l'époque. Un bilan d'étape réalisé en février 2012 constate alors l'échec de cette politique faute d'outils juridiques contraignants. C'est ballot. Il révèle que tous les États membres n'ont pas mis en œuvre de façon efficace et cohérente des mesures de protection des sols. En décembre 2019, c'est au tour du Pacte vert de montrer son intérêt pour les sols sans pour autant acter un réel programme de préservation, malgré l'existence depuis mai 2021 d'une proposition de plan d'action vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols. En décembre 2020, est créé l'Observatoire européen des sols, afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs européens en matière de bon usage des sols. Si on s'intéresse aux sols depuis le début de la science d'écologie scientifique, c'est pour ses multiples fonctions essentielles. En effet, les sols stockent plus de carbone que l'atmosphère et la biomasse réunies. De même, la capacité naturelle de stockage de l'eau des zones humides, des forêts et des sols résilients est supérieure à ce que pourrait être la capacité de nouveaux et coûteux réservoirs artificiels. Une meilleure rétention de l'eau peut atténuer les inondations, celles que l'on connaît si bien, et les sécheresses, rendre l'environnement plus résilient aux glissements de terrain et à l'érosion des sols. Une application plus large de la gestion durable des sols dans l'Union européenne augmentera à coup sûr la séquestration du carbone et la rétention de l'eau. Les sols sains, dont le taux d'infiltration de l'eau est élevé, favorisent également, rappelons-le, le développement d'un couvert végétal anti-feu et résistant. Et dernière info de notre très estimé Marc-André Sellos. Rajouter 0,4% de matière organique dûment sélectionnée dans vos sols et à l'échelle de notre planète, cela permettrait de capter nos émissions sur une année de carbone. Ce sont les mots des experts scientifiques réunis à travers les États. Pourtant, le 31 décembre dernier en France, le décret numéro 2023-1402 était acté par le ministère de l'Agriculture. Celui-ci autorise la conduite de travaux dans des forêts classées, forêts qui représentent quelque 168 000 hectares en France.
En l'état actuel du droit,
expliquait le ministère de l'Agriculture lors de la mise en consultation du projet de décret en avril 2023.
Le classement comme forêt de protection d'un massif rend impossible la réalisation de certains travaux. À l'exception de ceux indispensables pour la gestion forestière courante exercée par le propriétaire, de ceux relatifs à la recherche d'eau et des fouilles et sondages archéologiques à la recherche ou l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse, sans devoir recourir au préalable au déclassement des parcelles concernées.
Pour info, l'enquête publique a donné lieu à 96% d'avis défavorables pour cette modification de procédure. Le décret rend possible les travaux de surveillance, d'entretien, de remplacement et de maintenance relatifs à des canalisations, des réseaux d'intérêt d'eau, d'électricité ou des réseaux filières. Enfin, le décret ouvre la possibilité de réaliser, sous un régime d'autorisation préfectorale, certains travaux ou d'implanter des équipements ponctuels autres que ceux strictement indispensables à la gestion forestière. Si les arbres tombent, un à un, que les sols perdent leur gardien protecteur, qu'adviendra-t-il de tout le vivant qui y prend pied, humain inclus ? Peut-être avons-nous grandement besoin de regagner le monde des arbres dansants. Que diriez-vous de tendre la feuille un instant au récit d'un jeune arbre ? Petit arbre veut grandir.
À l'abri de grands chênes, petit arbre est né. Il grandit et découvre la vie. Mais petit arbre a un souci. Il se trouve inutile et trop petit. Il s'étire autant qu'il peut et regarde malheureux les grands arbres autour de lui. Pourtant, il sent la caresse du printemps. Et, sur ses branches, de drôles de petites bosses le chatouillent à présent. Le grand chêne les appelle des bourgeons. Regarde comme ils s'ouvrent. Bientôt, de jolies feuilles apparaîtront. Un jour, de petits oiseaux bleus arrivent dans la forêt. Ils semblent hésiter et penchent leur tête de tous les côtés. Puis, soudain, ils sautillent sur les branches de petits arbres, tout surpris. Pouvons-nous construire notre nid ici ? Petit arbre agite ses branches, doucement pour dire oui. Les oiseaux sont si contents qu'ils se mettent à chanter. Petit arbre se sent si fier qu'il a envie de danser. Puis arrive l'été et ses merveilles. petit arbre joue avec les rayons du soleil. Il sent de nouvelles feuilles pousser petit à petit. Et des glands, ce sont ses fruits. Un matin, il voit arriver en trottinant un petit hérisson et sa maman. « Nous cherchons une maison par ici. Tu voudrais bien nous accueillir aussi ?» Petit arbre agite à nouveau ses branches pour dire oui. Le bébé hérisson est si content qu'il se met à rouler. Petit arbre se sent si fier qu'il a envie de danser. Puis l'automne arrive à son tour. Et les feuilles de petit arbre ont changé de couleur maintenant. Et elles s'envolent dans le vent en faisant tomber les glands. Ramassant un par un les glands, trois écureuils roux arrivent en bondissant.
« Pouvons-nous passer l'hiver ici ? Dans ton tronc, nous serons à l'abri. »
Petit arbre agite une nouvelle fois ses branches pour dire oui. Les écureuils sont si contents qu'ils se mettent à l'escalader. Petit arbre se sent si fier qu'il a envie de danser. Les premiers flocons de neige tourbillonnent et recouvrent le sol lentement. Petit arbre grelotte un peu, il frissonne. C'est l'hiver. La nature s'endort doucement. À pas léger, sur l'épais manteau blanc, deux hermines s'approchent timidement.
Nos pattes sont gelées, nos oreilles aussi. Pouvons-nous nous réchauffer ici ?
Petit arbre secoue joyeusement ses branches pour dire oui. Les hermines sont si contentes qu'elles se frottent le bout du nez. Petit arbre se sent si fier qu'il a envie de danser. Désormais, petit arbre ne se sent plus petit du tout, car au creux de ses branches, bien au chaud, dorment les hermines, les écureuils roux, les hérissons et ses amis les oiseaux. Petit arbre les protège tendrement. C'est certain, il est devenu grand.
Dans un monde où les arbres dansent, les consciences s'éveillent et laissent place à une vision où les songes prennent vie.
Le père le grandit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston ?
Je vais aller faire la rue.
Plusieurs amis de la poésie et des sciences se sont interrogés sur cette invisible musique qui parcourt les tiges vertes dressées. Un scientifique a voulu pousser son expérience plus loin que ses compères dans les années 70. Il souhaitait comprendre si les fréquences présentes dans les protéines des cellules des plantes pouvaient leur permettre de communiquer. Pour financer ses recherches, il a combiné casquettes de musicien et de scientifique et a mis en musique le résultat de ses recherches sous le nom de scène Névariste.
On nous apprend des insanités et on nous empêche de contester.
Accompagné d'autres chercheurs, Joël Steinheimer a développé le concept de protéodie, selon lequel les fréquences des acides aminés peuvent être transcrites et retransmises sous forme de musique à ces mêmes plantes, stimulant ainsi leur croissance. Ce projet, a priori complètement improbable, a convaincu bien des agriculteurs aventureux pour protéger et stimuler leur culture. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux acceptent de devenir les cobayes de ce projet, encore bien actifs via l'association et l'entreprise Genodix, fondée par Joël Steinheimer, disparu cette année à l'âge de 81 ans. Cet épisode rend hommage à ce pétillant personnage.
La révolution.
Mais enfin, explique-moi, mon petit, qu'est-ce qu'il raconte, ce con Bendy ?
Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution.
Tu y as pêché où, baobab, acajou.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à un passionné du vivant avec cette question d'actu, cuisinée aux petits oignons.
De palissandre, mes lèzes tremblent
tremble être noyée.